soirée à vous à l'écoute d'Europe 1, il est 22h. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Et la fin du procès Balkany, les avocats du couple ont abattu leur dernière carte pour éviter la prison au baron des Hauts-de-Seine. Ils mettent en garde contre la tentation de l'exemplarité judiciaire. L'ultime recours de Nicolas Sarkozy rejeté, l'ancien président sera donc jugé dans l'affaire des écoutes. C'est une première sous la 5e République. Le tueur de la gare de Perpignan, Jacques Ranson, a-t-il fait d'autres victimes? Il est en tout cas entendu sur un autre meurtre non élucidé il y a 33 ans près d'Amiens. Le téléphone au volant, nouveau fléau de la sécurité routière. Les automobilistes lèvent davantage le pied et boivent moins, mais ils ont de plus en plus le nez sur leur smartphone. Le gouvernement veut consigner les bouteilles en plastique et les canettes, comme ça se faisait jadis. Il y a urgence. Et puis le rugbyman Mathieu Bastaro annonce sa retraite internationale. Il en a gros sur le cœur de ne pas avoir été sélectionné pour le mondial. Côté météo, gare aux orages, parfois très violents ce soir. Ne manquez surtout pas les prévisions complètes d'Elena Morna à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir, 22h20, vous avez rendez-vous avec Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Thomas Rebaud, le fondateur de Miro, spécialiste de la retouche photo et qui a levé ce matin plus de 200 millions d'euros. C'est la plus grosse levée de fonds en France pour une jeune entreprise.
Europe 1.
Et c'était donc aujourd'hui le dernier jour du procès des époux Balkany, jugés pour blanchiment de fraude fiscale et corruption. Leurs avocats ont plaidé pour tenter d'éviter la prison au maire de Levallois, contre lequel le parquet a requis 7 ans de prison ferme avec incarcération immédiate. Salomé Legrand, vous avez suivi cette plaidoirie au cours de laquelle les avocats de Patrick Balkany ont opposé deux mondes.
Deux siècles même. Le 20e, auquel appartiendrait Patrick Balkany, que son plus jeune avocat, Maître Vey, imagine mieux fumant des cigares avec Winston Churchill qu'avec Yannick Jadot. Et en face, du côté des procureurs, le 21e siècle, celui d'une justice qu'Éric Dupond-Moretti qualifie avec une moue de dégoût de moralisatrice et hygiéniste. L'un après l'autre, les deux conseils du maire de Levallois ont tenté de faire tomber le fantasme Balkany et dénoncer un dossier, je cite, politique, construit avec des témoignages téléguidés, des montants exagérés, des accusations qui tiennent à la colle. Sur le fond, sur la corruption, ils s'en sont remis aux plaidoiries méthodiques, disent-ils, de leurs confrères hier, préférant réclamer la juste mesure face à un réquisitoire qualifié de féroce et monstrueux, tout en martelant qu'à aucun moment il n'a s'agi d'argent public. Patrick Balkany s'est montré, lui, extrêmement sobre dans ses derniers mots, murmurant des regrets de n'avoir pas déclaré l'argent plus tôt, celui d'avoir amené son fils qui n'a rien fait au tribunal et de tenter le tout pour le tout. Monsieur le Président, je n'aspire qu'à une chose, rester auprès de ma femme parce qu'elle en a besoin.
Salomé Legrand qui a suivi pour Europe 1 ce procès Balkany. Le jugement est attendu le 18 octobre. Cette fois, c'est sûr, Nicolas Sarkozy n'échappera pas à un procès. Il s'agit de l'affaire dite des écoutes. La Cour de cassation a définitivement validé aujourd'hui son renvoi devant le tribunal correctionnel. Pour la première fois donc dans l'histoire de la 5e République, un ancien président va être jugé pour corruption. Alain Racot.
Les avocats de Nicolas Sarkozy ont utilisé tous les recours possibles pour empêcher la tenue de ce procès. Ils ont notamment réclamé à plusieurs reprises l'annulation des écoutes téléphoniques qui en sont à l'origine. Des écoutes effectuées dans le cadre d'une autre enquête sur la campagne de 2007 et son supposé financement libyen. En travaillant sur ce dossier, les policiers ont découvert que depuis son départ de l'Élysée, Nicolas Sarkozy utilisait un téléphone portable secret avec une carte prépayée enregistrée sous le nom de Paul Bismuth. Ils ont surtout intercepté une conversation avec son avocat et ami Thierry Herzog au cours de laquelle l'ancien président de la République s'engageait à faire nommer à un poste prestigieux à Monaco un haut magistrat français si celui-ci lui fournissait des informations sur le dossier Bettencourt. Cette promesse n'a jamais été tenue, peut-être même jamais formulée directement, mais au regard de la loi, sa simple évocation suffit à engager des poursuites pour corruption active et trafic d'influence. La décision de la Cour de cassation ouvre désormais la voie à un procès, premier procès d'un ancien président de la 5e République. Il pourrait avoir lieu d'ici la fin de l'année ou début 2020.
Alain Racot, chef du service police-justice d'Europe 1. Justice, toujours avec cette question, Jacques Ranson, le tueur de la gare de Perpignan, a-t-il également tué dans la Somme? Il a en tout cas été extrait de sa cellule pour être interrogé sur un autre meurtre sordide, non élucidé. C'est une information qu'Europe 1 vous révélait ce matin. Pierre de Cossette, cette affaire non résolue présente d'étranges similitudes avec les meurtres commis à Perpignan.
Oui, et c'est pour ça que les gendarmes de la section de recherche d'Amiens ont traversé la France 800 km pour aller entendre les explications de Jacques Ranson, 59 ans, détenu à Béziers après sa condamnation à perpétuité l'an dernier. Et c'est justement son procès qui avait attisé la curiosité des proches d'Isabelle Ménage, cette jeune informaticienne tuée et mutilée dans la Somme en 1986, son corps retrouvé sur un chemin de terre. Une famille qui a convaincu le procureur d'Amiens de rouvrir l'enquête qui avait été refermée 6 ans après la mort en 92. Visiblement, les investigations aujourd'hui conduites par deux juges d'instruction ont porté leurs fruits. Selon nos informations, le corps de la jeune femme a été exhumé. Son examen aurait renforcé les soupçons des enquêteurs, d'autant que les gendarmes ont par ailleurs découvert que Jacques Ranson, né en Picardie, était dans la région en 1986 et que quelques années plus tard, il y a violé une autre jeune femme. Il a d'ailleurs été condamné à 8 ans de prison pour cela. Ranson, connu surtout pour les meurtres abominables de deux jeunes femmes, toujours ses cibles, ces jeunes femmes à Perpignan à la fin des années 90, avait-il commencé son œuvre 12 ans auparavant? Il n'a pas souhaité d'avocat en garde à vue et on saura demain s'il est mis en examen pour un troisième meurtre, ce qui ferait de lui un tueur en série.
Enquête signée Pierre de Cossette et Chloé Triomphe. Un homme de 64 ans arrêté aujourd'hui par la police britannique pour homicide involontaire dans l'enquête sur la mort du footballeur Emiliano Sala, qui était à bord d'un avion d'affaires qui avait disparu au-dessus de la Manche alors qu'il se rendait à Cardiff. C'était en janvier dernier. On ne sait pas encore quel rôle cet homme a joué potentiellement dans cet accident. Il a en tout cas été entendu puis libéré.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h06, merci d'écouter Europe 1. Et c'est une image rare, un meeting commun, droite-gauche, qui se tient en ce moment contre la privatisation d'aéroports de Paris. Des insoumis aux côtés de socialistes et de républicains pour un combat commun, s'opposer au projet de privatisation d'aéroports de Paris et mobiliser les Français pour l'organisation d'un référendum d'initiative partagée sur cette question. Parmi ces personnes réunies ce soir, le député Les Républicains Gilles Carrez.
Ce qui va se passer, le recueil de ces 4 700 000 soutiens, va bien au-delà des organisations de partis politiques. Et par ailleurs, on a toujours su se réunir quand l'intérêt général l'exigeait. Vous savez, moi je suis député du Val-de-Marne, je suis député de Champigny depuis 26 ans. Si on a réussi à lancer le Grand Paris Express, à avoir des avancées sur l'amélioration de nos transports en commun, c'est parce que, avec des collègues de gauche, on a toujours su unir nos efforts. Il y a bien sûr des divergences générales, mais quand l'intérêt général le commande, et notamment sur les questions de services publics, nous savons travailler ensemble.
Le député Les Républicains Gilles Carrez, ce soir au micro européen de Virginie Riva. Et dans un instant, c'est la suite de votre journal sur Europe 1. Le téléphone au volant, un fléau qui se confirme. À tout de suite.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h09, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal. Et au volant, les Français sont aujourd'hui un petit peu plus vigilants face aux grands excès de vitesse ou encore à l'alcoolémie. En revanche, il reste un point noir vraiment préoccupant. Les automobilistes n'arrivent pas à se passer de leur téléphone, y compris quand ils conduisent. C'est le cas de 7 Français sur 10 et c'est ce qui ressort de l'étude annuelle réalisée par AXA Prévention qui scrute depuis 15 ans nos comportements sur la route. Écoutez son président, Éric Lemaire.
Avant, le danger, c'était quoi? C'était la grande alcoolémie. Elle a considérablement baissé. C'était de rouler à plus de 160 km/h sur autoroute. Ça a vraiment beaucoup baissé. Ce qu'on considère comme étant le fléau aujourd'hui de la route, c'est tout ce qui touche autour du téléphone, du smartphone, puisque 70% des Français reconnaissent utiliser leur smartphone pour différentes utilisations d'ailleurs. Mais ça reste quand même extrêmement inquiétant parce que vous imaginez, vous croisez 7 personnes sur 10 en face de vous qui sont en train de faire autre chose que vraiment conduire. Alors c'est quelque chose qu'on n'avait pas il y a 15 ans parce que le smartphone n'existait pas, il n'y avait que le téléphone et tout ça a eu une augmentation qui est assez grave, je trouve.
Et chez les 18-24 ans, ils sont même 83% à continuer d'utiliser leur téléphone au volant. Éric Lemaire, le président de l'association AXA Prévention, joint pour Europe 1 par Pierre Herbulot. Pour mieux recycler les bouteilles en plastique et les canettes, la secrétaire d'État à l'écologie Brune Poirson souhaite relancer la consigne qui existait autrefois dans notre jeunesse. Elle a reçu ce matin la secrétaire d'État des industriels, des élus, des ONG pour en définir les modalités. Et elle était ce soir l'invitée d'Europe 1.
En France, on a un système de gestion des déchets qui n'était pas organisé autour de la consigne, qui était plutôt organisé par grandes familles de produits. Ça, nous allons maintenir ce système-là, mais en plus pour aller chercher les emballages plastiques aussi sur les canettes et potentiellement aussi sur les bouteilles en verre. L'objectif, c'est d'aller les chercher là où ils sont, c'est-à-dire souvent en dehors du foyer familial, dans les parcs, dans les gares, dans tous ces endroits-là. Et en plus de ça, la restauration rapide en France se développe de façon presque exponentielle. Enfin, ça va très vite. Donc, on produit toujours plus de déchets plastiques. Et l'objectif, c'est de ramener tout ça dans des machines, ces machines à consigne, qui pourront ensuite servir pour nourrir des filières de recyclage du plastique. Mais ça, c'est difficile, parce que la France n'est pas encore, pour le moment, un système qui est organisé autour de ça. C'est pour ça que je réunis et que j'ai lancé ce matin un comité de pilotage.
La secrétaire d'État à l'écologie, Brune Poirson, qui était l'invitée du Grand Journal de Mathieu Béliard, ce soir sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et l'on reparle de l'affaire de l'assassinat de Jamal Khashoggi, ce journaliste saoudien qui avait disparu le 2 octobre dernier au sein du consulat de son pays à Istanbul, assassiné dans des conditions encore troubles. Il était très critique envers le pouvoir saoudien et tous les regards se sont rapidement portés vers l'homme fort du royaume, le prince Mohamed Ben Salman. Sébastien Krep, ce soir, c'est un rapport de l'ONU qui pointe à nouveau la responsabilité du régime saoudien.
Oui, et en des termes très clairs, c'est une experte des droits de l'homme qui a enquêté pendant 6 mois. Conclusion de son rapport, l'Arabie Saoudite est bien responsable de ce qui est décrit comme une exécution extrajudiciaire préméditée. En d'autres termes, un assassinat en règle sans autre forme de procès. Agnès Callamard, la rapporteuse spéciale qui est française, demande au chef des Nations Unies, le secrétaire général Antonio Guterres, d'ouvrir une enquête pénale internationale. Il y a suffisamment de preuves crédibles, écrit-elle, pour justifier d'autres investigations sur les responsabilités individuelle de hauts responsables saoudiens, y compris celle du prince héritier Mohamed Ben Salman. Et elle n'hésite pas à parler d'arrestation si leur rôle était prouvé. Pour cette experte, la responsabilité de l'État saoudien ne fait aucun doute. Sauf qu'à ce stade, elle ne parle qu'en son nom propre, pas au nom de l'ONU. On verra donc quelles suites seront données à ses conclusions. En face, la monarchie saoudienne dénonce ce soir des allégations sans fondement. Rien de neuf, rien d'autre que ce qui a été déjà, je cite, colporté par les médias, écrit sur Twitter le ministre des Affaires étrangères. Jusque-là, le régime a toujours soutenu des versions contradictoires. La dernière en date, c'est celle d'une opération qui n'aurait pas été autorisée par le régime. Le corps de Jamal Khashoggi, lui, n'a jamais été retrouvé.
Les précisions de Sébastien Krebs. La succession de Theresa May, objectif Downing Street. Boris Johnson accroît son avance. Ils ne sont plus désormais que 3 candidats. Les sports et la France comptent ce soir une championne d'Europe en escrime à l'épée. Ça n'était plus arrivé depuis Laura Flessel en 2007. Coraline Vitalis s'est imposée cet après-midi à Düsseldorf. En finale, elle a battu sa compatriote Marie-Florence Kandasamy. 15 touches à 11. Et puis c'est un grand nom du rugby qui tire sa révérence aujourd'hui. Mathieu Bastaro annonce qu'il prend sa retraite internationale au lendemain de l'annonce de sa non-sélection pour le Mondial au Japon. Forcément déçu, comme le confirme son ancien patron à Toulon, Mourad Boudjelal.
Bastaro est un garçon qui est forcément amoureux des Bleus. C'est une réaction de déception très forte. Voilà. Ah ben, si à 30 ans on est vieux, moi je suis une mouille. Hein. Non, je crois que c'est une force de déception de sa part. Voilà, il agit par rapport à la déception que je sais qu'il comptait beaucoup sur cette Coupe du Monde, hein, parce que il savait qu'il faisait celui-là et que la prochaine était quand même plus incertaine. Il avait envie de se prouver quelque chose avec les Bleus. Il avait un peu pris les clés du camion et sa déception est immense.
Mourad Boudjelal au micro Europe 1 de Jean-François Pérez, Mathieu Bastaro qui va poursuivre sa carrière l'an prochain à New York. Et nous, on va jeter un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna. C'est important car l'actualité est riche pour cette semaine et pour la semaine prochaine.
Et on commence par les orages, Isabelle, des orages localement forts ce soir et cette nuit sur le nord et l'est de la Loire. Alors les averses de grêle les plus probables vont circuler entre le Pays Nantais et le nord, ainsi que sur un axe allant du Lyonnais à la Bourgogne jusqu'au nord-est. On aura aussi une autre salve orageuse sur les Pyrénées au cours de la nuit. Alors c'est pas fini, revoilà d'autres orages demain sur le sud-ouest, orages qui vont faire du surplace entre les Pyrénées et les Cévennes et s'étendre ensuite vers les régions de l'est, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes ainsi que la Corse resteront à l'écart. Retour quand même de belles éclaircies sur le nord-ouest. Les températures en baisse et parfois en dessous des normales de saison au nord de la Seine et à l'ouest avec 17 à 20 degrés. En bord de Manche, 22 à Orléans et Biarritz, 23 à Paris et Angers, 24 à Bourges, Bordeaux et Toulouse, 26 à Lyon, 29 à Perpignan et Marseille, 31 pour Nîmes ou encore Avignon. Vendredi, nouvelle vague d'orage avec beaucoup de pluie ou de la grêle sur le sud-ouest. pluies du Massif central aux Alpes et Jura. Retour au calme samedi et dimanche. Et puis la dernière info concerne un risque de canicule pour la semaine prochaine. 35-36 degrés en moyenne pour mardi, mercredi et jeudi prochain.
La météo, signée Elena Morna.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. Juste avant l'invité éco d'Emmanuel Dutheil qui reçoit ce soir Thomas Rebaud, le fondateur de Miro. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h17 sur Europe 1, comme tous les soirs, on s'intéresse à la bourse et c'est avec vous Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui termine en légère hausse après le verdict monétaire de la Fed.
Oui, petite hausse pour les indices. Le Dow Jones gagne 0,15%, 26 504 points. Le Nasdaq plus 0,42%, 7 987 points. Le rendez-vous du jour, c'était donc les annonces de la Fed et pas de surprise de la part de la Réserve fédérale américaine. Elle ne touche pas assez tôt cette fois-ci, mais elle ouvre la voie à des baisses dans les prochains mois. La Fed s'est dite prête à agir face aux incertitudes croissantes que rencontre l'économie américaine. Elle est prête à agir. Ça signifie qu'elle pourrait donc baisser ses taux comme l'espèrent les marchés, comme le réclame aussi Donald Trump avec beaucoup, beaucoup d'insistance. Donc de possibles baisses des taux à venir, mais c'est difficile de savoir ce soir à quel rythme. Le dollar recule après ces annonces. L'euro avance de 0,4% face au billet vert et s'échange contre 1,1230. Du côté des valeurs, Apple perd 0,3%. Apple qui pourrait sortir une partie de sa production de Chine pour éviter la pression de la guerre commerciale avec Pékin. C'est du rouge aussi pour les valeurs pétrolières. ExxonMobil moins 0,5, Halliburton moins 1,8. Des valeurs emportées par la petite baisse du pétrole. Le WTI perd 0,3%, 53,76 $ le baril.
Et le marché parisien, lui, a hésité en attendant lui aussi les annonces de la Fed.
Oui, de la prudence de la part des investisseurs qui attendaient aussi ce verdict monétaire. Et finalement, le CAC 40 gagne 0,16%, 5 518 points. ST Microelectronics fait partie des plus fortes hausses du jour. Le fabricant de semi-conducteurs profite d'une note positive des analystes de Morgan Stanley et gagne 2,2%. Très belle séance aussi pour les valeurs bancaires. Société Générale et Crédit Agricole avancent de plus de 2%.
Parcours plus compliqué pour EDF qui perd du terrain.
Moins 1,1% pour EDF avec sans doute un nouveau retard pour l'EPR de Flamanville dans la Manche. Cette fois, le problème vient de la reprise de certaines soudures du réacteur nucléaire. Et puis Airbus ne profite pas de l'annonce de nombreuses nouvelles commandes au salon aéronautique du Bourget. Elle commande pour son nouveau moyen courrier de très longue distance, l'A320. XLR, Airbus lâche 2%. Ailleurs en Europe, les marchés ont terminé dans le désordre. Francfort 7,02%, Londres recule de 0,5%, moins 0,1% pour Madrid, Milan 7,04%, Amsterdam plus 0,2% et le CAC 40 aussi gagne 0,2% et clôture à 5 518 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Claire Lemaître de boursier.com.
L'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour faire garder son courrier pendant les vacances cet été.
Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir le fondateur de Miro.
Bonsoir Thomas Rebaud.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la star du jour, vous êtes le fondateur de Miro. Vous avez annoncé ce matin que vous aviez levé, c'est comme ça que l'on dit, hein, plus de 200 millions d'euros. C'est simple, c'est tout simplement du jamais vu en France pour une entreprise aussi jeune que vous. Hein. Vous avez créé Miro en 2016. Votre spécialité, vous utilisez l'intelligence artificielle pour retoucher en un temps record les photos prises par des photographes. Et depuis le début, hein, quasiment, c'est un vrai carton. Alors quand on voit que les investisseurs les plus prestigieux, on peut citer par exemple Bernard Arnault, qui vous avez suivi dès le début, s'intéresse à l'entreprise que l'on a fondée, que vous vous rendez compte là aujourd'hui que vous entrez dans le club très fermé de ce qu'on appelle les licornes, ces startups qui valent au moins 1 milliard d'euros. Il y en a très très peu en France, hein, 4, 5, Doctolib, Blablacar. On se dit quoi? Waouh.
C'est une excellente question, ce qu'on se dit après avoir signé une levée du genre. On se dit qu'il y a beaucoup de chemin à faire, parce que le plus dur, ce n'est pas forcément d'aller demander de l'argent, c'est de l'investir correctement. C'est ça qu'on se dit le lendemain.
Mais quand même, quand on se dit que des gens si importants font la plus grosse levée de fonds de l'histoire en France, oui, pour une si jeune entreprise, on se dit quand même, j'ai réussi mon rêve, ou finalement j'en suis qu'au début, on me donne les moyens d'aller au bout de mon rêve?
C'est une partie du rêve, réussir à faire ce qu'on veut faire, je pense que ça en fait partie. On est vraiment au tout début de la mission qu'on s'est donnée chez Miro. Puis on se dit surtout qu'on a une équipe qui a bien bossé. Bon, parce que pour aller aussi vite, il y a un petit peu de travail derrière, donc je pense qu'on peut tous se féliciter. C'est ce que j'essayais de faire hier.
Donc on a bien bossé, vous faites, vous livrez des photos retouchées aujourd'hui dans un peu plus de 100 pays. Vos clients sont aujourd'hui des entreprises du secteur notamment de l'immobilier, mais également de la restauration, de l'hôtellerie. On pourrait citer Booking, Airbnb, je crois, parmi vos clients. Oui. Là, l'intérêt de cet argent, c'est que ça va vous permettre de vous développer peut-être plus vite que ce que vous aviez prévu. Vous allez pouvoir proposer vos services aux commerçants sur Internet, mais également à nous. Les particuliers, nos photos de mariage par exemple, c'est pour demain ça ?
C'est pour après-demain, c'est pour fin d'année, en France du moins. En fait, deux choses. Le premier, c'est effectivement développer nos services à d'autres types de clients. Aujourd'hui, on ne ciblait que des entreprises. Demain, donc fin d'année en fait, on ouvre le service aux consommateurs. Ce qui change quand même radicalement pas mal de choses derrière.
Si on prend l'exemple par exemple des photos de mariage, un ami de la famille a été chargé de prendre les photos, il met tout ça sur le site de Miro une fois le mariage terminé aux alentours de 4-5 heures du matin, et on peut espérer qu'au brunch du lendemain, on ait les photos retouchées ?
Eh bien pas du tout. Non, on fait de la retouche, mais on fait de la retouche sur des reportages qu'on a fait nous-mêmes. Donc concrètement,
ce sera là aussi vos photographes à vous.
Exactement.
Que vous
quand vous mentionnez Airbnb Booking, en fait, c'est que nous-mêmes on envoie, on a
vous
formé,
avez 58
on entraîne
000 photographes.
Exactement. Et donc en fait, ça veut dire, en fait, pour un mariage, c'est comme pour beaucoup d'autres choses. Vous cherchez un photographe pendant 6 mois, vous allez demander sur Facebook, vous allez avoir des potes de potes de potes qui vont vous répondre. Vous allez avoir 14 commentaires, 13 devis, aucune idée de ce que vous allez recevoir, et une fois sur deux, vous allez être déçu. C'est malheureusement ce qui se passe. Et donc nous derrière, on va rentrer sur ce marché-là et mettre un peu de confiance dans tout ça.
C'est-à-dire que je disais, aujourd'hui, vous en êtes déjà 58 000 pour faire tout ce que vous faites. Vous allez devoir, là aussi, recruter beaucoup de photographes en plus.
Ouais, ça va être les mêmes photographes. Simplement, tous les photographes ne font pas tout. Donc, il faut réussir à sélectionner les photographes qui ont envie de travailler avec nous sur ce sujet, avec qui on a envie de travailler. Et puis faire un peu de travail là-dessus pour s'assurer que tout se passe bien. Donc, ce n'est pas forcément du recrutement, c'est plus de la sélection. Mais effectivement, derrière, au lieu de passer par Google ou par Facebook pour trouver un photographe et avec une très faible assurance sur la qualité, vous aurez une marque qui s'appelle Miro, dans laquelle vous saurez concrètement que vous allez avoir quelque chose qui vous
voulez devenir un peu la marque de référence aussi bien pour les particuliers. Je disais également les commerçants sur Internet. Jusque-là, c'était une petite dimension de votre marché. Là, vous voulez aussi accélérer. Mais on pense à qui quand c'est ça ? Par exemple, à vente privée ou ce genre de clients ?
On a ouvert le e-commerce, donc tous les produits que vous voyez en ligne, on va les photographier, mais ça reste encore de la relation avec des entreprises, mais des grosses entreprises. Et on ouvre effectivement aux petits commerçants, ça veut dire le boulanger qui a besoin de photographier sa boutique pour la mettre sur Internet, etc. etc.
Et de façon très concrète, à quoi va servir cet argent ? C'était les 200 millions là, que vous levez, c'est-à-dire que vous aviez besoin de l'argent pour quoi faire ? Pour développer encore un nouveau le site pour...
Alors, il y a la moitié de l'argent qui sert à développer la technologie en partie et les services de photographie au reste du monde et à des nouveaux clients, comme on en a parlé. Et puis, il y a la moitié de l'argent, un peu moins de la moitié de l'argent qui sert à supporter le monde de la photographie. Donc, on a ouvert une fondation pour aider le photojournalisme, donner des prix, faire des exhibitions, etc. On a ouvert un magazine qui s'appelle Blind. On a ouvert une suite d'outils gratuits pour les photographes, pour les aider dans leur vie quotidienne. Donc concrètement, il y a une partie de l'argent qui a été investi dans tout un tas de services, dans le but final d'avoir des photographes qui passent dans leur travail des moments plus agréables que précédemment.
Ça va aussi permettre, j'imagine, de recruter. Vous êtes une entreprise qui n'arrête pas de recruter. Je suis allé voir votre site internet avant de faire cette interview. Rien que sur Paris, il y a 61 offres d'emploi au moment où on se parle à pourvoir sur votre site. Je vous ai reçu au mois de janvier. Vous étiez 450 collaborateurs. Je crois que vous êtes plus de 600 en ce moment. Et j'ai lu que vous vouliez doubler de taille. Là, d'ici à la fin de l'année, vous voulez doubler de taille.
D'ici à décembre.
Le problème, c'est que vous m'aviez dit déjà qu'au mois de janvier, vous n'aviez personne, vous ne trouviez aucun profil. Comment on fait pour accélérer?
Alors non, mais c'est effectivement... Alors d'abord, on a ouvert des bureaux dans d'autres pays, New York, Tokyo, Shanghai et Bangalore. Donc les 600 ne sont pas simplement à Paris, mais une bonne moitié est à Paris. Alors deux problèmes, le problème de bureau, très, très prosaïque, faut trouver des bureaux, c'est jamais très facile de déménager tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Et puis derrière, effectivement, il y a des profils qui sont plus durs que d'autres à trouver. Mais pour l'instant, on s'en sort bien.
Ça y est, vous retrouvez les gens que vous avez besoin d'avoir. Quand aujourd'hui, on se dit, bon, alors ça y en a déjà fait un peu les entreprises, on se lance d'ici à la fin de l'année sur les particuliers, on imagine que la prochaine étape, c'est quoi ? Parce que ça, à la rigueur, c'est déjà fait, j'ai presque envie de dire, vous l'avez déjà en tête, vous avez le calendrier. Après, on fait quoi ?
L'étape finale, c'est d'avoir une marque dans laquelle et les consommateurs et les photographes ont confiance. C'est ça le vrai sujet. Les photographes, parce qu'aujourd'hui, vous avez des acteurs sur le monde du software, Adobe par exemple, sur le monde du matériel type Kodak, si vous voulez. Mais vous n'avez personne au milieu, une marque sur laquelle les photographes peuvent s'appuyer. Et côté client, encore une fois, si vous avez le moindre besoin, vous allez sur Google, vous tapez photographe, vous avez un peu tout n'importe quoi. Donc concrètement, c'est d'avoir une marque qui relie les deux.
Et une marque mondiale.
Et une marque évidemment mondiale.
Parce que c'est ça le grand défi. Il y a très peu d'entreprises françaises qui réfléchissent d'un point de vue mondial. Vous avez déjà des bureaux un peu partout dans le monde. Et l'idée, c'est ça. C'est qu'une boîte française qui veut rester française sera peut-être le leader mondial.
À Ah, mais c'est bien le but.
C'est bien le but. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite, en tout cas. Un grand merci, Thomas Rebaud, d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1. Vous êtes donc le fondateur de Miro et vous étiez notre invité. On se retrouve demain, 22h20.
On vous dit à demain, effectivement. Merci à vous, Emmanuel Dutheil.
C'était l'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour faire garder son courrier pendant les vacances cet été. Retrouvez toutes les solutions qui vous font gagner du temps sur laposte.fr/pro.
Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? A tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Cannabis thérapeutique, le chanvre des possibles, titre Libération. Pas de joint, mais des gélules, des huiles ou des fleurs séchées. Le comité d'experts mis en place par l'Agence nationale de sécurité du médicament a ouvert la porte à une expérimentation nationale rigoureusement encadrée. En marche, le grand bazar des municipales, titre le journal L'Opinion. Alors que la direction du parti présidentiel envisage des alliances avec des maires de droite, de gauche, du centre, les marcheurs rêve de conquêtes électorales et de mandats. Dans de nombreuses villes, La République En Marche devrait soutenir le maire sortant aux grandes dames des militants locaux qui rêvent d'aller à la bataille. Les risques de dissidence sont réels, écrit L'Opinion, avec un focus tout particulier sur les villes de Lyon, de Lille et de Bordeaux. Pourquoi le contrôle fiscal fait-il moins recettes, s'interrogent les échos. Les redressements et les pénalités notifiées chutent pour la troisième année de suite. Les nouveaux outils de lutte contre la fraude commencent à se mettre en place. L'Europe cherche sa tête, nous dit le journal La Croix. Jean-Claude Juncker, sur le départ, les chefs d'État et le Parlement européen doivent lui trouver un successeur, une tâche ardue. Il n'y a pas de candidat idéal, écrit Jean-Christophe Floquin, mais on pourrait retenir trois qualités prérequises pour ce poste. Il faudrait un chef d'orchestre, sensible aux enjeux environnementaux, capable de tenir tête aux grandes de ce monde et soucieux de la cohésion de l'ensemble européen. L'avenir de l'Union est en jeu. Paris et Berlin s'opposent sur les postes clés de l'Europe, nous dit quant à lui le Figaro, tandis que l'Humanité titre pour sa part sur les migrants, la faillite sanglante de l'Union européenne. Demain sera la journée mondiale des réfugiés. ONG et élus dénoncent la politique criminelle de l'Union européenne. Et voici donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie de Sophie Peters pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle qui est à côté de moi en studio. Une fois n'est pas coutume, c'est vrai, bien agréable.
Ça fait plaisir, c'est rare.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.